CJSO 101.7, La Tribune. Une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, c'est au Québec depuis le 13 et jusqu'au 26 mars, la Francofête, deux semaines au cours desquelles on célèbre depuis 27 ans la beauté de la langue française. Mais comment le français se porte-t-il chez nous? Est-ce qu'on le parle, l'écrit, le chante, l'affiche de plus en plus et de mieux en mieux? Ou est-ce que c'est le contraire? J'en parle jusqu'à 13 heures avec mes invités. Marie-Anne Alpin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Raymond Archambault, présentateur du Radio-Journal de Radio-Canada pendant 20 ans. Linda Dufault, ex-journaliste et communicatrice. Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Caroline Millette, autrice, compositrice, interprète. Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Louis Plamondon, député du Bloc québécois. Myriam Vincent, autrice et éditrice. Et Sylvain Simard, ex-député et ministre. La Tribune, dès après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 29 mars, profitez de notre promotion des économies bien mijotées. Plus vous achetez, plus vous économisez sur les électroménagers KitchenAid. Achetez 3 électroménagers admissibles, économisez 300 $ additionnels. Achetez 4 électroménagers admissibles, économisez 400 $ additionnels. Achetez 5 électroménagers admissibles, économisez 500 $ additionnels. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Comment la langue française se porte-t-elle chez nous? Est-ce qu'on la parle, l'écrit, la chante, l'affiche de plus en plus et de mieux en mieux? Ou est-ce que c'est l'inverse? Je parle d'abord au président du Mouvement Québec français, Maxime Laporte. Bonjour, Maître Laporte.
Bonjour, Monsieur Rochon.
Alors, paru sous votre plume en mars 2022, « Nous n'avons plus le loisir de pardonner aux naufrageurs », La thèse que vous défendez dans ce livre, c'est que la cause structurelle du déclin du français chez nous a un nom et que ce nom est le Canada. Ce n'est, écrivez-vous, qu'en se libérant du Canada que le Québec pourra enfin aspirer à la normalité nationale et linguistique. Expliquez-moi ça.
Vous savez, au Québec, à peu près tout le monde dit aimer le français, hein, à différents degrés. Nos dirigeants eux-mêmes, ils ne manquent jamais une occasion d'ailleurs, de nous chanter leur amour du français, mais même si bon, c'est souvent d'une voix fausse, du moins à mes oreilles. C'est quoi l'amour, hein? C'est quoi le vrai amour, si ce n'est tout d'abord une responsabilité, comme le disait, je pense, Gilles Vigneault dans une entrevue que j'ai déjà entendue. Écoutez, on peut pas dire qu'on aime le français puis en même temps acquiescer à son dépérissement. On peut pas prôner son salut, mais rejeter les mesures qui, dans notre contexte politique bien particulier, s'imposent à cette fin. Le français fait face à un défi herculéen au Québec et au Canada en général aussi, bien sûr. Et la gravité de la situation fait en sorte qu'on ne peut plus se contenter d'un amour en parole, d'un amour en blabla. D'où le titre de ce livre, « Nous n'avons plus le loisir de pardonner aux naufrageurs ».
Ouais. Mais vous n'hésitez pas, je reviens à ma question, là, à la question constitutionnelle. Oui. Là. Vous n'hésitez pas à plaider dans ce livre que le statu quo, c'est-à-dire rester à l'intérieur du Canada, revient à programmer le long et pénible suicide du Québec français.
Donc, plus précisément sur cette question, vous savez, souvent, on attribue le déclin du français, à l'hégémonie de la culture anglo-américaine, à son influence sur les jeunes, ou encore, on va dire, comme on éprouve des difficultés importantes à intégrer, à franciser les nouveaux venus, les nouveaux Québécois, c'est ça qui fait reculer le français. Mais je fais remarquer que dans les sociétés linguistiquement normales, les pays normaux, les nouveaux arrivants s'intègrent naturellement à la langue nationale, à plus de 99 %. Ironiquement, c'est le cas au Canada anglais, où parmi les nouveaux arrivants qui effectuent une substitution linguistique, eh bien 99 % d'entre eux le font vers l'anglais. La culture anglo-américaine, c'est vrai que, évidemment, ça représente un obstacle de taille.
Oui, mais ne sera pas, je me fais l'avocat du diable, elle ne sera pas moins envahissante, Maxime, dans un Québec souverain. Nos jeunes ne se mettront pas du jour au lendemain à préférer la chanson en français au Hit Parade.
Si on fait une petite comparaison, par exemple, le Mexique, comme nous, se trouve aux côtés, et voisin des États-Unis d'Amérique. Et pourtant, on n'observe pas au Mexique un phénomène d'anglicisation, par exemple, structurelle de la société mexicaine ou encore des immigrants qui choisissent de faire leur vie au Mexique. Toutes les sociétés du monde, en Occident en particulier, font face aux mêmes défis. Et pourtant, toutes ces sociétés ne s'anglicisent pas institutionnellement pour autant. Il n'y a qu'au Québec où on observe un phénomène vraiment d'assimilation vers l'anglais des nouveaux arrivants, à une telle échelle du moins, au sens où il y a à peu près la moitié des nouveaux venus qui choisissent de faire de l'anglais leur langue d'usage. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, toutes choses étant égales, il y a quelque chose au Québec qui fait que on n'est pas en mesure de garantir l'avenir du français. Ce quelque chose, c'est notre condition politique. C'est le fait qu'on n'est pas capable d'aménager un environnement linguistique normal, comme dans une société linguistiquement normale. Vous voyez? Donc, et en effet, dans mon livre, je démontre, au fond, que ce problème, il a un nom. Ce nom, c'est Canada, au sens où, étant annexé à cet ensemble politique, on n'est pas en mesure de garantir l'avenir du français.
C'est trop court, Maxime Laporte. Je dois déjà vous remercier. Tiens, une toute dernière question, en 15 secondes, votre degré d'optimisme pour la suite des choses. Êtes-vous optimiste?
À voir la manière dont le français s'est imposé ces dernières années comme un thème de premier plan dans le débat public, je le suis de plus en plus. J'étais auparavant plus pessimiste, je suis de plus en plus optimiste.
Merci beaucoup, Maxime Laporte.
Je vous en prie, au revoir.
Née à Contrecœur en 1994, Myriam Vincent détient une maîtrise en littérature de langue française à McGill. Elle a publié quelques textes dans les revues littéraires Le Pied et Cavale avant de se lancer dans l'écriture de son premier roman, Furie, qui a remporté le prix des rendez-vous du premier roman. Son dernier roman, À la maison, est finaliste pour le prix des libraires. Myriam Vincent est également éditrice chez Poète et Brousse, où elle dirige la collection Prose. Bonjour, Myriam Vincent.
Bonjour.
Comment estimez-vous, Myriam, que la langue française se porte chez nous? La parle-t-on et l'écrit-on de mieux en mieux ou est-ce l'inverse que vous constatez?
Ben moi, je suis en fait assez optimiste là, comme éditrice par rapport à comment le français se porte dans notre société, entre autres parce que à chaque saison, on publie des poètes et des écrivains et des écrivaines de tout âge. Donc, il y a vraiment une belle relève en littérature de gens qui ont aussi en bas de 30 ans, là, qui sont supposés être les gens qui ne maîtrisent pas le français ou qui ne s'y intéressent pas. Et donc, de devenir évidemment écrivain, ça montre qu'il y a encore une grande sensibilité face au français et un grand désir de manier cette langue là, de toutes les manières possibles. Entre autres, la relève en poésie québécoise est super forte, super intéressante, ce qui, pour moi, démontre bien que le français n'est pas aussi haï que on le dit parfois là, dans les journaux et tout par rapport aux jeunes.
Que pensez-vous de cette publicité mettant en scène un faucon pèlerin qu'on voit beaucoup à la télé et pour lequel on utilise, pour parler de lui, un tas d'expressions anglaises?
Mon Dieu, je dois avouer que je ne connais pas cette publicité parce que, comme beaucoup de jeunes de ma génération, je n'ai pas la télé. Mais c'est quoi l'expression anglaise qu'ils utilisent?
Ah, mon Dieu, des tonnes et des tonnes d'expressions anglaises. Mais tiens, chasser les expressions anglaises, notre vocabulaire, on en utilise beaucoup. Est-ce que ce serait déjà là poser un geste important, vous croyez, pour la survie du français?
Ben je pense pas en fait. Moi je pense que les expressions anglaises dans le langage courant sont pas une menace pour le français. En autant que le français de base a bien compris, en autant qu'on comprenne que ce sont des expressions anglaises qu'on utilise, je pense que c'est une façon qui peut amener de la couleur à notre langue, qui peut la diversifier, qui peut permettre des jeux dans la langue qui sont très intéressants. C'est juste qu'en arrière de ça, évidemment, il faut réaliser que ce sont des anglicismes, parce que parfois les anglicismes syntaxiques, par exemple, sont plus difficiles à repérer que si on dit, je sais pas moi, un windshield au lieu d'un pare-brise. Mais quand même, je pense pas que ces expressions-là, encore une fois, tant qu'elles sont bien détectées, sont nécessairement une menace pour la langue française.
Vous les trouvez même cool par moment?
Ben en fait, oui, parce que parfois elles vont permettre de nommer des réalités qui se seraient peut-être nommées différemment en français. Ça va permettre des jeux sur les sonorités, sur le rythme. Comme éditrice en poésie, c'est des questions qui m'habitent beaucoup, c'est sûr, là.
On consomme beaucoup, énormément, de culture américaine. Est-ce que ça met en péril la nôtre, notre culture?
C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que, en œuvrant dans la littérature, c'est pas d'hier que la littérature est quand même un art où est-ce que c'est difficile, par exemple, de vivre de cet art-là parce que c'est pas l'art qui est le plus consommé au Québec. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment d'essayer d'empêcher les gens ou de taper sur la tête des gens qui consomment de la culture américaine qui va revaloriser notre culture? Je pense pas. Je pense que de passer plus par justement valoriser notre culture, en parler plus, la publiciser plus, la rendre plus accessible. Je pense que c'est par là qu'on va faire en sorte que cette culture-là est appréciée des jeunes particulièrement, plutôt que d'essayer de les culpabiliser parce qu'ils écoutent des séries Netflix américaines. T'sais.
Est-ce que vous êtes inquiète pour la survie de notre langue ou pas trop? J'ai l'impression que la réponse est pas trop.
Pas trop, effectivement. Je pense que c'est aussi parce que récemment, là, je voyais un article sur le blog L'Abattoir qui recensait plusieurs articles de journaux qui dataient, qui commençaient en 1910 sur toutes les journalistes qui disaient que les jeunes parlaient mal. Donc, ça commençait en 1910 sur les jeunes de 1910, puis il y en avait à toutes les décennies jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas d'hier qu'on a peur pour la langue française puis qu'on dit que les jeunes parlent plus mal que les vieux. Puis je pense que c'est important de parler de cette question-là, c'est important de la garder d'actualité, de se demander comment est-ce qu'on peut mieux enseigner le français, comment est-ce qu'on peut plus valoriser le français. Mais justement, tant qu'on garde ça à l'esprit, tant qu'on a cet enjeu-là à l'esprit puis qu'on veut le valoriser, je pense que la langue française n'est pas prête de disparaître.
On ne peut pas se laisser sans un clin d'œil à l'industrie du livre au Québec. Vous êtes autrice, éditrice. Est-ce une industrie en santé? Il me semble qu'il y a un appétit pour le livre québécois, non?
Absolument. Je pense que oui. En plus, pendant la pandémie, en fait, c'est une industrie qui a vu un regain de popularité, qui se maintient malgré la reprise des activités et tout. Donc, je pense que c'est une industrie qui est en santé. C'est sûr que c'est une industrie qui pourrait toujours plus l'être. Comme je le disais avant, ben, les auteurs et les autrices, en ce moment, vivent de leurs livres au Québec. C'est vraiment pas possible. Donc, il y a des améliorations à faire. Puis, évidemment, moi, je souhaiterais toujours qu'on lise plus de livres québécois. Mais on est sur la bonne voie, je pense. Puis, je pense que c'est une industrie en santé en général.
Merci, Myriam Vincent. C'est un plaisir de vous parler.
Merci à vous.
Merci. Louis Plamondon est député de Bécancour, Nicolas Sorel à Ottawa. C'est le frère du parolier Luc Plamondon avec lequel il partage l'amour de la langue française. Bonjour, Louis Plamondon.
Oui, bonjour.
Le français poursuit son déclin. Statistique Canada confirme que la proportion de personnes dont la langue parlée est le français a chuté dans toutes, pas juste au Canada, dans toutes les régions du Québec, sauf dans Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Il faut faire quoi, prioritairement, selon vous, Louis Plamondon, pour renverser cette tendance-là?
Mais d'abord, il faut comprendre que c'est... Il y a trois facteurs qui nous ont conduits là. L'abandon des cours d'histoire, par exemple, dans les années fin des années 78, là, ça a eu comme effet de tuer notre fierté, là, dans le sens qu'on se rappelle plus ces combats contre les anglophones, mais dans notre histoire, tout ce qu'on a subi comme directive pour éliminer le français, donc on a eu que nos ancêtres ont eu à se battre, etc. Ça, c'est un des premiers facteurs, il n'est plus là. Puis la connaissance des professeurs qui enseignent l'histoire, ben ils ont étudié au moment où justement il n'y avait pas de cours d'histoire. Alors ça y est pour beaucoup. Et surtout, l'arrivée du monde informatique, là, ça a été dramatique parce que c'est exclusivement en anglais et les jeunes sont friands de l'informatique, là. Donc, ça, encore là, ça a été pour faire décroître l'absolue utilité du français et l'envahissement de la chanson américaine qui existe depuis longtemps, mais qui est encore davantage portée en triomphe partout dans le monde. Eh bien, ça a enlevé cette valeur du français que les gens le sentent moins. Ça, c'est les raisons du déclin. Mais le grand ennemi, c'est le fédéral dans sa façon. Et c'est lui le facteur d'anglicisation. Par exemple, en comparant la minorité anglaise du Québec avec la minorité française du reste du Canada, ça là, il n'y a rien de semblable. Et puis, alors là, on intervient dans, pour cela, pour sauver la minorité anglaise, on intervient dans des juridictions provinciales. Et ça, le Québec n'a jamais été, sous des gouvernements qui étaient fédéralistes, jamais été en opposition avec cela.
Oui, les entreprises privées là, de compétences fédérales ne sont pas assujetties à la loi 101. Le gouvernement du Québec réclame qu'elles le soient. C'est une position que votre parti, le Bloc québécois, le défend depuis longtemps. Oui, conservateurs et néo-démocrates y adhèrent aux dernières nouvelles. Alors là, la balle est dans le camp des libéraux qui sont, doit-on le rappeler, minoritaires. Je dis la balle. C'est une balle ou c'est une patate chaude pour eux? Ça va finir comment puis ça va finir quand?
Ça, c'est la loi 96 qui permettrait, par exemple, à toutes les compagnies qui ont des chartes fédérales, lorsqu'ils sont installés au Québec, ils devraient respecter au même titre que les autres entreprises la juridiction en ce qui regarde le français. Alors ça, c'est un combat qu'on mène à Ottawa, mais qui devrait aboutir dans le bon sens. Seuls les anglophones les anglophones du Québec qui siègent dans le Parti libéral s'y opposent pour le moment et ont réussi à faire diminuer un peu la dureté, si tu veux, de la loi. Mais ça va aboutir à quelque chose d'intéressant quand même. Mais ça reste que, tu sais, le combo au Québec, là, c'est qu'arriver à une langue commune, qu'elle soit essentielle pour tous. Mais le combo Canada-anglais, c'est si le nombre le permet, peut d'avoir des services bilingues. Tu sais, c'est bien, bien différent comme objectif.
Recourir constamment, Louis Plamondon, recourir constamment à des expressions anglaises pour dire ce qu'on veut dire, de quoi ça témoigne? Est-ce que ça témoigne qu'on ne connaît pas suffisamment le français? Est-ce que ça témoigne qu'on le méprise, qu'on s'en détache?
J'allais dire, ça témoigne qu'on devient de plus en plus français de France. Tu sais. Mais c'est certain que c'est une façon de s'en détacher sans s'en rendre compte quasiment, là, tu sais. Mais n'oublions pas que dans le temps, on ne parlait jamais d'un pare-brise, on parlait toujours de windshield, on parlait toujours d'un bumper, là, tu sais, et non pas d'un pare-choc dans les années 60. Donc, ça allait évoluer vers une connaissance du français, mais ensuite, ça revient à des expressions qu'on a déjà utilisées. Mais moi, d'après moi, c'est pas ces choses-là, c'est le poids démographique du Québec, là. Si avec l'objectif de M. Trudeau d'avoir 100 millions de personnes au Canada, on est à 36 millions d'ici 20 ans maximum, 15 ans même maximum, eh bien, ça va faire que le poids démographique va être tellement minime que là, l'importance du français pour les jeunes, pour les jeunes et les moins jeunes va être moins important.
Alors, vous êtes inquiet pour l'avenir? Vous êtes plutôt pessimiste?
Mais il faut absolument que 90% des immigrants ils se joignent ici, il faut qu'ils se joignent à la majorité francophone. Et la loi 101 n'oblige pas les gens qui arrivent ici à l'âge adulte de s'intégrer au niveau de l'éducation, au niveau de leur formation en français. Et vous savez que plus de 70% des adultes sont des adultes, ceux qui arrivent comme immigrants au Québec. Donc, s'ils veulent devenir soudeurs, qui veulent devenir mécaniciens ou même dans un métier ou simplement à l'université, ils choisissent d'aller en anglais parce que ils voient bien, et surtout ils sont en majorité à Montréal, ils voient bien que c'est l'anglais qui progresse le plus et puis c'est l'anglais en Amérique du Nord qui est le plus important.
Donc, Louis, je dois vous remercier déjà. Merci beaucoup, Louis Plamondon.
Oui, c'est un plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Caroline Millette est autrice, compositrice, interprète et propriétaire de l'école de musique Porte-Voix. Elle lançait en 2021 l'album 100% francophone, La tête haute, on lui parle ce midi à la Tribune. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Sylvain.
Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes Québécois francophones qui font un choix très différent du vôtre, celui de chanter en anglais, qu'en anglais, et même d'écrire en anglais, qu'en anglais. Est-ce que ce phénomène-là doit nous inquiéter? Vous inquiète-t-il?
Quelle question! Bon, écoute, c'est sûr qu'à travers l'enseignement, je vois très bien que les jeunes écoutent principalement de la musique en anglais. Et moi, le commentaire qui m'inquiète le plus, c'est « Ouais, mais la musique en français, c'est quétaine. » Moi, j'entends ça souvent. Moi, j'aime pas ça, la musique en français. Et dans ce temps-là, j'essaie de leur amener, écoute, est-ce que tu as écouté toute la musique en français qui existe? Probablement pas. Donc, prends la peine d'aller découvrir, prends la peine d'aller écouter, puis trouve-moi une chanson que tu aimes en français. Et ils finissent par y arriver. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est à travers les plateformes numériques, à travers l'accessibilité. C'est sûr que la musique anglophone est très, très, très présente. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en écouter. J'en écoute moi-même. Mais la musique francophone a peut-être un peu moins de place. Donc, ce qui fait qu'ils sont moins en contact avec ça. Puis ils ont l'impression qu'ils n'aiment pas ça, eux autres, la musique en français, les jeunes. Ils ont l'impression que ça ne les rejoint pas. Puis je pense que c'est peut-être un petit bout de mission que je me donne de leur faire découvrir ça. Est-ce que c'est inquiétant? Je pense que oui, parce que ça fait partie, en fait, c'est le reflet de notre culture. Fait qu'il y a plus de musique anglophone, moi, ça me sonne une cloche. Maintenant, moi, dans mon quotidien, dans mon projet d'album et tout ça, ça n'a jamais été une question qui s'est posée.
Donc, c'est ça que j'allais vous demander, là.
Je suis pas la seule.
Bon, oui, mais c'est ça que j'allais dire. La pression exercée par la culture américaine, là, vous en témoignez, elle est énorme. La tentation de démissionner, de tourner le dos aux Français, jamais elle ne vous a envahi. Vous vous êtes jamais dit « I want to pong ». C'est en anglais que ça se passe.
Non. Non, en fait, moi, ça n'a jamais été mon point numéro un. Moi, à travers mes chansons, j'avais envie de m'exprimer et je maîtrise beaucoup mieux le français que l'anglais, premièrement. Donc, pour moi, j'ai essayé, je vais te l'avouer, là, j'ai essayé d'écrire une chanson en anglais. Ça a pris un couplet que j'ai abandonné ça parce que ça me ressemblait pas, puis j'avais l'impression de pas m'exprimer à 100% de manière authentique. Fait que pour moi, ça n'a pas été une question. Maintenant, il y en a plein des artistes québécois qui écrivent en anglais, puis je suis pas en train de juger ça, mais moi, dans ma personnalité, ça fitait pas. L'anglais ne fitait pas. C'était vraiment en français, puis non, la question s'est jamais posée. J'ai jamais vu ça comme une barrière. Tu vois, moi, je me suis dit, peut-être que je pourrais pas, I want to punk, je pourrais peut-être pas y aller aux États-Unis, mais peut-être qu'en France, oui.
Et il y a cette nouvelle mode, je ne sais pas si... Oui, il y a cette nouvelle mode aussi, je ne sais pas si vous la constatez comme moi, de chanter dans les deux langues.
Oui, oui, oui.
De faire une chanson dans les deux langues.
Oui, avec un couplet en français, un refrain en anglais ou vice-versa. Là. Tout à fait.
Ça, aimez-vous ça?
Écoute, si tu me demandes mon goût à moi, non, mais c'est tout à fait un essai qui est valable. Moi, personnellement, ça m'accroche pas. Mais je comprends, en fait, moi, je comprends le but marketing derrière ça. Donc, la chanson peut voyager autant du côté anglophone que francophone. Des fois, il y a la même chanson qui a été faite complètement en anglais, qui est refaite complètement en français aussi, puis ils sortent les deux en même temps. Je le vois vraiment plus d'un point de vue marketing qu'autre chose. Au niveau de la beauté de la chose, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'accroche, mais c'est un goût très personnel.
Mais merci beaucoup, Caroline Millette, de nous avoir accordé cet entretien. C'était très intéressant. Merci, Caroline.
Écoute, merci à toi, Sylvain, de l'invitation. Je suis allée en France dernièrement, fait que ça tombe utile avec ma réflexion sur le français.
C'est vrai, c'est vrai. Bravo pour ce séjour en France.
Merci beaucoup.
Après la pause, Raymond Archambault, Marianne Alpin et Sylvain Simard.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Alors, comment la langue française se porte-t-elle chez nous? Est-ce qu'on la parle, l'écrit, la chante, l'affiche de plus en plus et de mieux en mieux? C'est notre sujet de conversation ce midi à la Tribune. Mon prochain invité a présenté pendant 20 ans le radiojournal de Radio-Canada. Bonjour Raymond Archambault.
Oui, bonjour Sylvain.
J'ai envie de savoir, Raymond, comment vous trouvez la radio et la télévision d'aujourd'hui? Est-ce que vous sentez ces animateurs, ces animatrices, ces journalistes animés du devoir de bien parler français? Ce fut un devoir. Est-ce que ça paraît toujours en être un?
Il y a des choses qui ont changé profondément dans la manière de travailler. Parlons de l'information d'abord. Avant les années 2000, un reporter, par exemple, à Radio-Canada, assistait à un événement, revenait au bureau, écrivait son topo, le faisait enregistrer, le faisait monter, et puis ensuite il était présenté à l'antenne. Alors, on perdait évidemment quelques heures là, entre l'événement et le rapport de l'événement. À partir des années 2000, probablement parce que les Américains le faisaient, les Américains ont eu toujours beaucoup, beaucoup d'influence dans le monde des médias, Radio-Canada a décidé de lancer ses journalistes en direct. Avec évidemment des avantages, parce qu'on gagne en spontanéité, on gagne en rapidité, mais c'était aussi un défi que de lancer des journalistes qu'ils n'avaient jamais fait. Alors, je me souviens qu'on avait mis au point une formation des journalistes de manière à ce qu'ils puissent raconter une histoire sans avoir un texte devant eux. Alors, je me souviens qu'on donnait aux journalistes de l'époque là, des textes, et puis on leur disait « lisez ça ». Ensuite, on reprenait le texte avec un gros crayon feutre, on rayait des phrases complètes, et on épurait le texte, on gardait quelques mots ici et là, et on leur demandait à partir de ça, est-ce que tu peux me raconter l'histoire? Bon, on a gagné beaucoup en rapidité, on a gagné beaucoup en spontanéité, mais il y a des dangers à ça. Il y a des dangers que la langue que l'on parle chez nous, que l'on parle tous les jours, finissent par avoir de l'influence sur celle qu'on va utiliser à l'antenne. Écoutez, la semaine passée, ou il y a deux semaines à peine, là, j'ai entendu de la bouche d'un présentateur vedette de Radio-Canada un beau calque, là, quelque chose comme « ça regarde mal hein? », ça vient évidemment de « it looks bad ». Ben, écoutez, je pense que tout le monde, là, on devrait tous avoir le souci de se corriger. On peut faire des erreurs, là. On vit dans un environnement qui est dangereux, parce que l'anglais a évidemment beaucoup, beaucoup d'influence, non seulement chez nous, mais en France aussi. Alors, je pense que ça doit être le souci de tout le monde. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui se débrouillent très bien à l'antenne, en direct, qui ont beaucoup de talent. Mais c'est illégal.
Okay. Comment aimez-vous, Raymond, la publicité qui met en scène un faucon pèlerin qui était dans une position vulnérable dans les années 70 et ne l'est plus aujourd'hui? Est-ce qu'il suffit de chasser les expressions anglophones pour que le français soit comme le faucon pèlerin en position moins vulnérable?
Je ne sais pas. J'ai écouté cette publicité-là. Je trouve ça... c'est une belle publicité. Est-ce que ça va avoir de l'influence dans notre société, je ne sais pas, on regardera.
Alors, quel geste poser en priorité, selon vous, pour renverser le déclin du français?
Ben, je pense que c'est la responsabilité de chacun. On doit tous faire des efforts pour améliorer la qualité de notre français. Alors, si, par exemple, on fait un calque comme « ça regarde mal » ou « ça sonne une cloche », essayons de trouver l'expression française correcte. Et la prochaine fois, essayons de remplacer cette expression-là par une expression française. Moi, Sylvain, j'observe beaucoup de choses autour de moi. Je regarde, je suis rendu à un âge là, où j'ai vu des jeunes, des enfants devenir des jeunes et puis devenir des adultes. Et puis j'ai observé que leur manière de parler évolue aussi avec le temps. Mais il y a des choses qui disons, ont changé profondément dans la nature du français parlé au Québec. Si par exemple vous regardez dans des documentaires des micro-trottoirs réalisés il y a 50 ou 60 ans, vous allez entendre un français qui ne sonne plus, qui n'a plus la même sonorité que le français d'aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Moi, j'observe depuis, mettons, 20-25 ans, que notre français s'est nasalisé au fil des années, à cause de l'environnement anglophone, probablement. Au même titre, je me souviens qu'un de mes professeurs de linguistique, il y a longtemps, m'avait fait remarquer, je ne sais pas s'il citait un autre linguiste, là, mais que le français au Québec, le long de la vallée du Saint-Laurent, s'était formé aussi dans sa sonorité au contact des langues autochtones. C'est-à-dire que le était parlé dans des tons plus graves que le français de France à la même époque. On peut toujours l'observer, ça. Alors, écoutez, moi, je pense que l'histoire n'est pas finie, mais c'est une tâche qui nous attend tous les matins, toute la journée. Aussi, il y a le rôle de l'État. Vous aviez eu des élections il n'y a pas longtemps au Québec. Vous avez reçu, Sylvain, une carte d'électeur.
Oui, bilingue.
Oui, bilingue. Alors, quand on dit que le français est la langue officielle du Québec, je me demande pourquoi Élections Québec produit des cartes bilingues.
Ce fut un entretien beaucoup trop bref. Merci beaucoup, Raymond Archambault, de me l'avoir accordé. Au plaisir.
Ça me fait plaisir.
Merci. Au revoir. Marie-Anne Alpin est présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour, Mme Alpin.
Bonjour, M. Rochon.
Au recensement de 2016, Marie-Anne, la part du français langue maternelle sur l'île de Montréal passait sous la barre des 50%. La qualité du français qu'on lit et qu'on entend, est-ce que c'est pas beaucoup en lien avec son statut de langue en perte de vitesse? Moins elle est utilisée, moins elle est utile, moins elle est maîtrisée.
Mais c'est un cercle vicieux. J'aimerais aussi noter que ce n'est pas seulement à Montréal, hein, vous l'avez dit un peu plus tôt lors de cette émission, que c'est dans 17 régions du Québec que le français a reculé. On s'en doutait à Montréal parce que ce n'est même plus une question de statistique, hein, concernant le recul du français à Montréal. Ça s'entend, ça se vit, c'est ancré, c'est dans notre quotidien. Donc, on a de la difficulté à se faire servir en français.
On se demande si on est encore chez nous.
Cette région du Québec où ça recule de façon flagrante, ça fait mal.
Mais que faire pour que le français reprenne du galon à Montréal? Je dis Montréal parce que Montréal, comme vous dites, c'est beaucoup plus flagrant là. On se demande parfois si on est encore chez nous. Alors que faire urgemment à Montréal? Quels sont les premiers gestes à poser, pensez-vous, pour renverser la tendance?
Mais premièrement, j'aimerais vous féliciter pour ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ce que vous êtes en train de faire maintenant à votre émission, bien, il faudrait faire ça partout à Montréal. Il y a plusieurs aussi animateurs qui font la même chose. Donc, ça commence par l'exemplarité, ça commence par la responsabilité. Et c'est toutes les personnes qui ont un micro, comme vous en ce moment, on parle du français. On met en lumière les problématiques, la beauté, les difficultés. Et je pense que ça commence par ça. Chaque concitoyen doit se sentir concerné et on doit se sentir responsable et on doit transmettre aussi cette passion-là à nos plus jeunes. Oui, évidemment, on parlait de l'exemplarité de l'État. Oui, ça prend des lois, ça prend toutes sortes d'organisations de la société civile. Comme nous, je suis également présidente de la Fondation pour la langue française, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a le Mouvement Québec français. Donc, toutes ces organisations-là qui arrivent aussi avec des mesures qui sont là, mais la population aussi, c'est sa responsabilité. Et je pense qu'ils sont de plus en plus présents et conscients. Et le français, c'est rassembleur parce que si le français recule, c'est toute une culture qui recule et donc c'est notre statut, c'est notre nation.
Vous parlez de la responsabilité de l'État. Étendre l'application de la loi 101 au cégep, comme le réclame le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon, je dis de Paul Saint-Pierre Plamondon parce que le parti a résisté avant lui à aller jusque-là. Est-ce que c'est raisonnable, vous croyez?
Bien, est-ce que c'est raisonnable de faire des lois raisonnables dans un Québec où le français recule? Moi, c'est plutôt ça j'ai envie de vous répondre. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, je comprends que ça peut devenir un peu problématique de commencer à mettre des mesures telles que étendre la loi 101 dans les cégeps, mais les cégeps publics, ils sont payés quand même par nos propres impôts et la nation au Québec, c'est en français que ça se passe. Et on le sait avec toutes sortes d'analyses que une fois que les étudiants s'en vont dans les cégeps en anglais, bien leur parcours par la suite se fait en anglais.
Donc, la SHJB, Marianne Alpin, présentait au Jésus pour la Saint-Valentin le spectacle « Déclaration d'amour pour l'amour du français ». Vous disiez au Journal de Montréal, en marge de ce spectacle-là, « Si le français recule, c'est la fin de notre culture ». Sentez-vous notre culture se fragiliser dramatiquement?
Bien oui, c'est évident. Je veux dire, c'est notre la langue française, c'est le véhicule de notre culture. C'est pour ça que on pense que c'est très important d'investir massivement en culture, que ce soit en littérature, que ce soit à la télévision, que ce soit aux producteurs, ben pas aux producteurs, mais à tous les créateurs, à ceux qui font de la musique, aux auteurs, aux autrices. C'est important d'investir de plus en plus. J'ai entendu différentes personnes qui parlaient à votre micro. Oui, le français dans certains milieux se porte bien, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il faut vraiment se mettre des lunettes vraiment transparentes. Moi, je suis pas si positive que ça. Mais je suis positive dans le sens que les gens sont interpellés.
Mais vous êtes inquiète.
Mais je suis très inquiète, là. Parce que les données sont là. Il n'y a plus personne qui peut contester que le français est fragilisé.
En effet. Merci beaucoup. Je dois vous remercier. Merci beaucoup, Marianne Alpin.
Ça me fait plaisir. Et continuez, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à renverser la tendance avec le cœur.
Merci, Marianne. Sylvain Simard a été député de Richelieu pendant près de 20 ans. Il a occupé plusieurs ministères, dont ceux des relations internationales, de l'immigration et de l'éducation. Bonjour, Sylvain Simard.
Bonjour, Sylvain Rochaud.
À peu près personne ici n'a adressé un bilan reluisant de la situation du français depuis le début de cette émission. C'est difficile de le faire. Les indicateurs sont pas très bons.
Oui, ben, écoutez, cette semaine, là, vous l'avez noté au départ, là, c'est la francophète. On va tous mettre à pleurer en fin d'émission. Là. Vous avez eu des témoignages extraordinaires. C'est une émission tout à fait remarquable, je le dis très honnêtement. Mais je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul et se rendre compte qu'on a aussi beaucoup à fêter. Le français, c'est vrai, recule à la maison à Montréal, c'est évident. La qualité du français parlé et écrit également est en recul. Les réseaux sociaux, l'Internet en général a fait en sorte que l'anglais est très très présent, notamment chez les jeunes. On peut tous se mettre à s'arracher les cheveux, mais la réalité, c'est aussi que nous sommes des francophones, que nous sommes fiers de parler français, que les gens parlent français. On est à Sorel tous les deux aujourd'hui, moi je suis à Massuville. Je peux vous dire que les gens parlent français. Un français qui est, honnêtement, là, certainement pas plus mauvais qu'il l'était il y a 40 ou 50 ans. Rappelons-nous que les procès-verbaux du conseil municipal de Sorel, il y a 100 ans, étaient en anglais. On peut se désespérer, mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs. On a des créateurs magnifiques, on a des chanteurs, on a des écrivains, il y a une vie culturelle qui est encore très pétillante. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Il y a des réalités qui peuvent se changer. Vous connaissez mes convictions là-dessus. Le Québec deviendra vraiment français et francophone quand il deviendra un État. Mais d'ici là, et même quand nous serons un État, il faudra toujours se battre. Nous serons une minorité en Amérique du Nord. Il faudra toujours continuer à se battre pour le français. Mais cette semaine de fête et cette émission que vous animez aujourd'hui devraient nous faire prendre conscience que il y a une grande fierté à être francophone et à parler français et avoir une culture française. Et ça mérite de se battre. Cet esprit de résistance qu'ont eu nos ancêtres, on doit nous aussi l'avoir et faire l'effort supplémentaire parfois pour aller chercher la bonne expression, pour vraiment nous communiquer dans la langue qui est la nôtre et qui a fait de ce peuple un peuple tout à fait remarquable, les Québécois.
Vous avez, Sylvain, un pied sur l'autre continent, en France. Y a-t-il de quoi se consoler à se comparer sur l'utilisation outrancière là, d'expressions anglaises? Les Français ne donnent pas leur place non plus.
Absolument, ils sont souvent très très ridicules là-dessus. La langue des communications en particulier est truffée d'anglicismes ridicules, parfois même à contresens. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler longtemps. Mais honnêtement, là, les Français parlent français, les Allemands parlent allemand. T'sais. Les gens parlent bien en général, ont un vocabulaire étendu, s'expriment. Les journaux français sont remarquablement écrits. Donc, on peut sans doute, nous, ça nous choque, les Québécois, lorsqu'on va en France et qu'on entend des gens utiliser des expressions anglaises totalement ridicules, alors qu'il y a de beaux mots français pour les utiliser. Il y a un snobisme qui, sans doute, va finir par s'estomper un peu. Mais la réalité, c'est que la langue française est parlée par des centaines de millions de personnes à travers le monde, à travers l'Afrique, en Europe, ici en Amérique, au Québec, en Haïti. Il est important d'être fier de cette réalité-là. On n'est pas... J'ai des amis, j'en ai un couple d'amis depuis toujours, nous, qui sont hollandais. Ils parlent une langue qui est parlée par 6 millions de personnes. Et pourtant, ils la parlent tous les jours et bien. Ils sont, évidemment, ils communiquent avec le monde extérieur par d'autres langues, mais ils sont enracinés dans cette langue et ils ne la changeront pas. Et je pense qu'on doit avoir la même fierté, nous. On est des Québécois qui parlons français, qui ont cette chance. Et il y a beaucoup à faire, mais surtout pas à désespérer.
D'accord. 30 secondes. Puis là, c'est toute une question en 30 secondes. Là. Vous avez été ministre de l'Éducation. Croyez-vous, j'ai une idée de votre point de vue là-dessus, croyez-vous qu'il faille étendre au cégep l'application de la loi 101. Le PQ s'est aventuré sur ce terrain-là pour la première fois, sauf erreur, de son histoire. Il y a eu bien des gens qui voulaient qu'il aille là, mais là, c'est fait.
Mon idée là-dessus évolue. Je pense que les Québécois doivent y réfléchir, y penser. Il est vrai que depuis quelques années, le nombre de francophones qui s'inscrivent dans les cégeps français commence à devenir inquiétant. Et en ce sens, nous n'avons certainement pas, quelqu'un le faisait remarquer tout à l'heure, à financer nos jeunes en anglais. Et il faut quand même qu'il y ait des cégeps pour les anglophones. Ce sont des adultes, les jeunes Québécois francophones, qui choisissent d'aller là. Il faut être très prudent. Mais il y a certainement moyen de faire en sorte que nos Québécois qui vont dans les cégeps anglophones puissent d'abord et avant tout aller dans des cégeps francophones. Et je vois très bien le jour où il y aura un examen commun pour tous les... que anglophones et francophones soient obligés de connaître le français pour être diplômés.
Sylvain, je dois vous remercier. Merci beaucoup, Sylvain Simard.
Au revoir.
Au revoir. Après la pause, Linda Dufault et Jean-Paul Perrault.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 29 mars, profitez de la promotion des électroménagers fiables. Économisez jusqu'à 300 $ additionnels sur les électroménagers Maytag admissibles. Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez aussi une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher et de matelas pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider. Profitez de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca. Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse à la situation du français au Québec à La Tribune ce midi. Je me tourne vers Linda Dufault, ex-journaliste et communicatrice. Elle a œuvré à la salle des nouvelles de CJSO, occupé le poste de rédactrice en chef du défunt journal La Voix avant de travailler à titre d'agente d'information à l'UPA. Bonjour Linda Dufault.
Bonjour Sylvain Rochon.
ce qui est très intéressant dans votre cas, Linda, c'est que vous avez grandi un peu dans les deux cultures. Votre grand-maman maternelle était anglophone. J'ai sorti mon meilleur anglais chez elle sur le rang Saint-Thomas à Saint-Robert, aidé de quelques bières. Vous vous souvenez peut-être de mes « Oh, brother ».
Oh, brother. Oh, désolé, Sylvain, je m'en souviens plus.
Ah, mon Dieu, que ça me fait de la peine.
Mais c'est toute une brochette d'invités ce midi. Évidemment, l'angle avec lequel je voulais aborder la question, c'était pas d'un point de vue politique ou de militantisme. Hein.
Non, mais comment ce fut, j'aimerais ça savoir, comment ce fut pour vous de baigner dans cette dualité linguistique?
Bien, on s'en rend pas toujours compte. On s'en rend compte au fur et à mesure. Puis c'est un peu la réflexion que je me faisais en me préparant pour aujourd'hui. Veux, veux pas, à Saint-Robert, il y avait deux familles. Une famille vraiment anglophone et une famille moitié-moitié. Mon père est francophone, ma mère est moitié francophone, moitié anglophone. Ben, alors, ma langue maternelle, c'est officiellement l'anglais. Quand j'ai commencé l'école primaire, ben, je connaissais très peu de mots en français, mais je me suis vite débrouillée. Puis, un peu comme je vous l'indiquais, il y avait un souci qui est toujours là, qui est toujours existant aujourd'hui de la part de ma mère, de qu'on sache bien écrire le français, bien écrire, bien parler le français, et la même chose en anglais. Alors, les dictionnaires ont toujours traîné dans la cuisine. Et encore aujourd'hui, ma mère, 81 ans, quand elle s'adresse même sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi le petit lien que je voulais faire, même sur les réseaux sociaux, elle prend le temps de vérifier si ce qu'elle a écrit et son français est correct.
Ben, bravo. Quand je vous ai invité à prendre part à cette émission, vous m'avez écrit que vous étiez préoccupé par l'américanisation généralisée au Québec, mais aussi en France et en Belgique. Regardez certaines émissions, vous faisaient retrousser les orteils. Comptez-moi ça.
Ben, c'est parce que les émissions horticoles, c'est un peu comme ce que M. Simard vient de dire aussi. On dirait que pour se donner des airs intéressants, ils sont obligés de parler de « mixed border », alors que nous, ici, on parle de « plate-bande mixte ». À un moment donné, j'étais à Paris en 2015, je me souviens plus ce que j'ai dit, puis on me regardait, on me disait, ben oui, mais on dit pas parking, on dit stationnement, puis je me souviens plus des mots, mais c'est comme, il faut insister, le mot français existe, quand le mot ou l'expression n'existe pas, bon, je peux comprendre qu'on peut faire un jeu de mots ou intégrer le mot. Avant que vous me le demandiez, je comprends pas la publicité qui est actuellement diffusée avec le faucon. Parce que je côtoie pas des adolescents au quotidien. Alors, pour moi, cette publicité-là, c'est comme si c'était une publicité dans une autre langue, la Chine ou je sais pas trop quoi. C'est en chinois, c'est pas ma réalité. Alors, ce qui m'amène à vous dire, la réalité de chacun est différente. Et d'autant plus que nous, à Saint-Robert, ben écoute, tout s'est fait en français. Mon éducation s'est fait en français. Si je me retrouve dans une autre province canadienne, et là, je dois me battre pour avoir une éducation en français, c'est autre chose. Mais je le vois davantage comme un souci, comme un trait culturel de vouloir protéger le français. Et aussi, et c'est Louis Plamondon qui l'a évoqué tantôt, on a perdu avec nos cours d'histoire, qui n'étaient déjà pas parfaits, mais au moins il y avait des cours d'histoire, on a perdu la fierté d'être ce qu'on est. Et bon, là, j'ai abandonné le journalisme, j'ai abandonné les relations publiques, mais là, je fais des capsules historiques, des émissions à saveur historique. Il y a un regain d'intérêt, Sylvain, on ne peut pas le nier. Alors, on ne peut pas dissocier langue française avec culture française, avec patrimoine, avec histoire. C'est ce qui m'amenait à vous dire, oui, on est une minorité sur le continent nord-américain, mais plus on va parler de la trajectoire des Canadiens français et des Québécois maintenant, partout depuis la nuit des temps, essayons de développer cette fierté-là. Et c'est pas seulement à l'État ou à des cours d'histoire étatisés de le faire, mais notre curiosité, parce que c'est aussi un trait culturel important, tous vos invités tantôt sont animés par une curiosité d'en savoir davantage, d'en apprendre davantage. Et on s'en sort pas. Les réseaux sociaux m'inquiètent. Et là, ça m'inquiète parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir avant d'écrire. Et parfois, et la critique est difficile. C'est aussi ce qui m'amène à vous dire, on est des personnes... On travaille dans la sphère publique, donc on doit accepter d'être critiqué. Une fois que j'étais rendue à l'UPA, mon travail était aussi d'écrire des discours. Alors, j'étais constamment, mes textes étaient constamment soumis à la critique. C'est difficile sur les réseaux sociaux.
Linda Dufault, comme dans le cas de chacun de mes invités, ça fut captivant et trop court. Merci beaucoup, Linda.
Le plaisir et le désir de parler français, Sylvain.
Merci beaucoup, Linda Dufault. Merci. Nous terminons cette émission en compagnie du président d'Impératif français, Jean-Paul Perrault. Bonjour, M. Perrault.
Bonjour, M. Rochon. Comment allez-vous?
Je vais très bien. On parle beaucoup de la publicité du gouvernement là, qui veut susciter une prise de conscience quant au déclin du français au Québec. Impératif français, votre groupe, mène depuis des années une offensive publicitaire en faveur du français langue commune.
Oui, oui, ça fait probablement depuis une vingtaine d'années là, qu'Impératif français, chaque année, lance au minimum 3 grandes campagnes promotionnelles thématiques ou d'intérêt public ou sociétal, afin, bien sûr, de développer chez les gens des perceptions, des attitudes et pourquoi pas des comportements favorables à l'avancement. Vous savez, on parle beaucoup trop de la défense du français et ça, c'est une position de repli. Je pense qu'on a davantage le goût de voir le Québec, la francophonie, le français, la culture québécoise, la culture d'expression française, on veut les voir se développer. On veut créer, développer, bâtir en Amérique du Nord un espace unique qui s'appelle le Québec, qui a comme langue nationale, comme langue commune de la diversité, comme langue de travail, qui a le français. C'est ça, c'est un beau projet. C'est un projet en mouvement continuel, auquel, bien sûr, nous invitons les gens qui nous écoutent aujourd'hui d'emboîter le pas, de participer. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va affirmer la beauté de notre culture. Vous savez, j'entends beaucoup parler de la qualité de la langue française. Vous remarquerez que, de fait, chaque fois qu'il a été question au Québec de la quantité de français, notamment par son prestige, par son statut, après un certain temps, on détourne le débat, qui est un débat important, le débat du prestige, du rayonnement, du statut de la langue française, c'est un débat important, mais on dirait que vient un moment donné où il détourne ça vers la qualité du français, question souvent de culpabiliser les Québécois, pourtant de leur histoire et de leur géographie. Il faut être fier de fait qu'on est parti à 60 000 colons le long du fleuve Saint-Laurent, à une population d'environ 12-13 millions de francophones en Amérique du Nord, dont 8 millions au Québec. Vous comprendrez avec nous que ce que nous méritons, ce que le Québec mérite, ce que les gens qui nous écoutent méritent, c'est des félicitations. Ce sont des félicitations et on doit accélérer le mouvement d'avancement du français, de l'avancement de la francophonie internationale. Et c'est là-dessus que j'aurais voulu que le gouvernement mise, plutôt que de venir culpabiliser surtout les jeunes Québécois.
Oui. Vous avez remis, je parle toujours d'Impératif français que vous présidez, vous avez remis votre prix prestige à Ingrid Saint-Pierre et Boucard Diouf. Boucard oui. L'a reçu en disant « Je m'engage en recevant ce prix à continuer de dire aux gens d'ici qu'une langue, c'est comme une amoureuse. Il faut s'en occuper affectueusement, sinon elle file à l'anglaise. Elle french une langue étrangère. Sommes-nous négligents, Jean-Paul Perrault, à l'égard de notre langue? Le danger nous guette-t-il de la perdre par négligence? »
Ben, vous savez, je ne crois pas. Je pense que le discours pessimiste là, qui se tient à l'heure actuelle est malheureusement un discours qui décourage. Vous savez, je ne vois pas rien de très encourageant d'entendre le gouvernement répéter sur à peu près toutes les tribunes parler du déclin du français. Vous savez, le gouvernement devrait donc non pas parler de déclin du français ou laisser penser aux Québécois qu'ils parlent mal par sa campagne, là. Je pense qu'il vaut mieux y aller avec quelque chose d'enthousiasmant. On en veut plus, on veut plus de français, on veut avancer, on veut progresser, on veut que nos artistes, notre cinéma, notre culture rayonnent internationalement, on veut que nos cinémas rayonnent internationalement, on veut davantage de produits en français.
Ce sera le mot de la fin, Jean-Paul Perrault, et c'est un excellent mot de la fin. Merci, M. Perrault.
Un grand plaisir, M. Rochon.
Merci. Merci à l'ensemble de mes invités, Maxime Laporte, Myriam Vincent, Louis Plamondon, Caroline Millette, Raymond Archambault, Marianne Alpin, Linda Dufault et Jean-Paul Perrault, qu'à la Tribune, mardi prochain, nous serons, tradition bien québécoise, à la cabane à sucre.